Vous écoutez
RMC.
Salut à toutes et à tous, merci d'être avec nous au cœur de la nuit française, 3h13 du matin chez vous. Il est ici, 21h13, on a vécu une fin de soirée extraordinaire, éprouvante émotionnellement, notamment pour un homme qui m'accompagne ce soir dans la nuit de l'after, Kevin Diaz. Salut Kev.
Bono Tatoc.
Walid est là également, salut Walid.
Salut Nico, salut tout le monde.
On est très heureux pour Kevin.
Très heureux pour Kevin.
Je suis très heureux pour Kevin et pour tous les Portugais qui nous écoutent. Tous les ressortissants portugais en France qui nous écoutent. Exactement. Tous les supporters du Portugal dans le monde entier qui nous écoutent.
Franchement, c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire tous les deux. Tout sera répété de ce qui s'est passé dans la watch room là-bas à côté.
Pourquoi il s'est passé quoi ?
Alors là, franchement.
Je vais dire à tous les auditeurs, notamment les franco-portugais, que mes deux camarades étaient à fond pour la Grèce.
On va faire une émission sérieuse.
On n'est pas là pour troller.
On n'est pas là pour raconter des choses.
Je suis très sérieux.
Une fois on s'est levé, juste pour te chauffer. Mais on est très heureux d'avoir un Portugal-Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça, on est content.
On l'a un peu angoissé sur une ou deux situations croates parce que c'est le jeu.
Voilà, c'est le jeu.
Et puis surtout parce que Kovacic a fait une action incroyable. Mais sinon, on était très très heureux pour Gonçalo Ramos et pour les Portugais.
Très heureux.
Alors on va débriefer. Ils font des fake news.
Il y aura tellement de choses à dire sur ce match.
Effectivement, on va prendre le temps de débriefer en long, en large, bien sûr. Vous le savez, la qualif du Portugal dans ce duel face aux Croates qui ne se relève toujours pas. On y va dans un instant. Rien tiers, ça va nous commenter les adieux, notamment sûrement de Luka Modric à la Coupe du Monde. 3-2-1 pour le Portugal. On reviendra également sur la victoire de l'Espagne qui a déroulé face à l'Autriche avec un grand Oyarzabal. Et puis surtout le match de Walid maintenant dans la nuit, 5h du matin française, 1h45.
On est prêt.
Encore à attendre, on est prêt.
On va le faire.
On va faire une chauffe, une préchauffe énorme dans la nuit de l'after. Suisse, Algérie, bien sûr, la compo à venir, même si. On l'a déjà, la compo d'Algérie. Walid la donnera tout à l'heure, dans quelques minutes. Venez sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, commentez. Vous êtes nombreux, je l'espère. Vous êtes quasiment 5000 en direct à 3h15 du matin. Merci d'être avec nous. C'est notre dernière ensemble, tous les trois. Walid reprend l'avion demain. Profitez de sa présence ici aux États-Unis. Après, il sera sur votre fuseau horaire. J'accueille Gary De Jesus, notre spécialiste football portugais. Salut Gary.
Boa noite a todos. Boa noite, Kevin.
T'es essoufflé, j'ai l'impression. J'entends ton souffle de loin.
Je vais pas terminer cette Coupe du Monde, les gars. Ça va être compliqué. Hein.
Là, si ça continue comme ça. Elle est longue. Hein. C'est 15e finale.
Émotionnellement, ça continue comme ça depuis le début. Le début, c'était pas facile aussi. Hein. Donc là, c'est compliqué. Il y a les hauts et les bas, et c'est.
Non, mais là,
émotionnellement, c'est difficile. D'ailleurs, sur le terrain, les joueurs sont en train de rendre hommage à Diogo Jota parce que ça fait aujourd'hui un an qu'il nous a quittés. Donc, je sais pas si vous le saviez en France, mais ils portent tous un bracelet. En hommage à Diogo Jota pour aller le plus loin possible pour lui aussi dans cette compétition.
Il y a une grosse charge émotionnelle liée bien sûr à la disparition de leur coéquipier Diogo Jota il y a un an, liée également simplement à l'envie d'aller au bout dans ce mondial, liée au destin de Cristiano Ronaldo dans ce mondial. Il y a plein de thèmes qu'on va évoquer. Bien sûr, on va écouter Gonçalo Ramos, buteur héroïque de la qualif ce soir pour le Portugal. C'est parti.
Okay, voilà, à la spéciale, trad. Une compétition spéciale.
C'est une compétition spéciale, c'est spécial. Mais c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, moi je suis toujours présent dans les dernières minutes. C'est pas la première, ce sera pas la dernière fois. On sait que jusqu'aux dernières minutes, on peut appeler Gonçalo Ramos. C'était quoi le message de la part du coach? Est-ce que c'était de transformer la pression? Ce qui est important, c'est de dire que cette équipe, elle est en train de grandir dans cette compétition. C'est une compétition qui est courte. Mais pour nous, ça ne l'est pas. C'est beaucoup de travail. On est ensemble. Ça fait un moment qu'on joue ensemble et ça aussi, ça compte. C'est la force de notre groupe. Et à partir de maintenant, c'est se battre ou mourir. Et on va tout donner. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le prochain match? Notre identité, c'est d'aller toujours après la victoire. On n'est jamais mort, on est toujours là.
Voilà la réaction de Gonçalo Ramos, traduit impeccablement par Kevin. Tiens, Aurélien Tiercin qui suit également, qui a commenté ce match. Aurélien, raconte-nous les images que tu as vues. Je vois que le réalisateur s'est aussi attardé sur Luka Modric, notamment. Est-ce qu'Aurélien est avec nous, Aurélien Tiercin? Bon, il n'est pas avec nous, il viendra dans un instant, lui qui commentait ce match.
Tellement d'ambiance.
Il y a quelques secondes. Bon, les gars, je veux quand même qu'on commence sur, parce que là, ça s'agite également sur le chat, hein, sur la dernière action. Celle de l'égalisation refusée pour la Croatie. On va expliquer concrètement ce qui s'est passé. Il y a une confusion énorme sur dehors du terrain, évidemment. Hors-jeu, pas hors-jeu. Est-ce que le ballon a été touché ou pas? Ce qui met en hors-jeu croate, en l'occurrence Guardiol. C'est très dur de se prononcer là-dessus, Walid. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que ce ballon a été dévié ou pas par un coéquipier de Guardiol? Pour l'instant, on n'a pas l'image qui nous affirme le contraire.
Sur le dernier, sur le dernier ralenti, moi, je ne vois pas le croate toucher le ballon.
Après, c'est pas touché, il n'y a pas hors-jeu et le but est validé.
Exactement. Donc, j'ai une incompréhension là-dessus. Après, on va faire confiance à l'arbitre et à ceux qui accompagnent l'arbitre. Peut-être qu'il y a une puce dans le ballon. Peut-être qu'il y a,
un truc. Il y a une puce dans le ballon.
Voilà. Voilà. Donc, s'il y a une puce dans le ballon, on va faire confiance à l'organisme qui prévaut la décision. Et donc, on va faire confiance comme pour la goal line technologie, comme pour le hors-jeu. Mais c'est vrai que moi, sur le dernier ralenti, qui est vraiment très très clair, je ne vois pas le ballon touché par le par le croate. Mais moi, je respecte la décision, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'était en tout cas un cas très très chaud jusqu'au bout, et ça a fait partie du suspense et de ce match très très étrange à analyser et complètement dingue.
L'image, et pour une image va être scrutée, vue, revue, analysée, ça ne changera rien au score final, bien sûr, Kevin.
Non, mais de toute façon, là, il y a une image que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de la BBC, où au moment où le ballon est touché, il y a en effet la puce qui vibre et on voit la petite courbe qui bouge. Il peut y avoir une autre interrogation, c'est ceux qui ne comprenaient pas pourquoi, étant donné que le Portugais touchait le ballon derrière le Croate avant que le joueur hors jeu le récupère, ça ne compte pas. C'est-à-dire que si tu touches le ballon sur juste un rebond ou sur juste une touche qui semble involontaire, ça ne compte pas pour remettre en jeu l'adversaire.
Ça, c'est autre chose.
Mais effectivement, il y avait aussi cette possibilité.
T'as raison. Alors, sur le réseau, effectivement, il y a une sorte de diagramme officiel qui raconte qu'il y a une petite ondulation dans la trajectoire du ballon qui raconte que le ballon aurait été légèrement dévié par Matanovic.
Sinon le ballon
est contact et voilà.
Donc pas but, pas but.
Donc
pas but, sujet clos.
On va pouvoir avancer forcément ensemble, même si certains vont peut-être vouloir polémiquer. Donc le Portugal qualifié, beaucoup de choses à dire. On va parler de Cristiano Ronaldo, on va parler notamment de Bruno Fernandes qui est sorti à 102e minute de jeu. Qu'as-tu pensé globalement du Portugal, Walid?
J'ai vu un Portugal à deux visages. Moi, j'ai vu un Portugal avec une première mi-temps plutôt cohérente, avec l'initiative du ballon. De toute façon, on le savait, face à une équipe croate qui est souvent dans l'adaptation. Le Portugal a impacté, a eu deux, trois situations intéressantes, avec Bruno Fernandes notamment, avec un Nuno Mendes et un Leao qui ont essayé de faire la différence. Mais ils sont un peu endormis en n'ayant pas concrétisé les temps forts sur la première mi-temps. Et je trouve que sur la fin de première, on a eu la Croatie qui a repris un petit peu le contrôle du jeu au milieu de terrain, et puis surtout en deuxième mi-temps, moi j'ai vu une Croatie nettement supérieure au Portugal, même s'il y a le but hors-jeu refusé, but hors-jeu génial au passage, refusé de Cristiano Ronaldo, le penalty qui donne l'égalisation du Portugal. J'ai senti quand même la Croatie supérieure en deuxième mi-temps, avec des énormes occasions et avec un Diogo Costa qui a été énorme, et puis derrière il y a eu un changement tactique très très bizarre de la part de Roberto Martinez. On en parlera après, où il est passé en 4-4-2 avec la sortie notamment de Bruno Fernandes et de Vitinha, ce qui a complètement déséquilibré le Portugal. À ce moment-là, j'avais très très peur parce qu'il y avait des grosses occasions croates, et derrière il a bien réagi avec cette sortie de Cristiano Ronaldo et l'entrée de Ramos et de Neves notamment, qui a permis à rééquilibrer un peu tout ça en 4-3-3, et t'as ce but incroyable du super sub Gonçalo Ramos sur ce très beau centre de Rafael Leao. Donc voilà, match je trouve avec plusieurs chapitres, un premier chapitre portugais et un deuxième chapitre, je trouve, croate, mais le Portugal a été plus efficace et ils ont été chercher cette qualification qui leur ouvre des perspectives différentes.
Pour moi, le moment de cette soirée, le moment de cette Coupe du Monde, voire le moment de l'ère Martinez, c'est au moment où il décide de sortir.
82e.
Voilà, il décide de sortir Cristiano Ronaldo pour moi. Pour moi, c'est là.
Et Bruno Fernandes, 20 minutes avant aussi.
Ouais, bon, Bruno.
C'est autre chose, mais quand même.
Bruno Fernandes, c'est autre chose. Je suis même pas sûr que ce soit vraiment mérité, mais en tout cas, de sortir Ronaldo, peu importe qu'il soit dans un bon match ou pas, qu'il ait marqué ou pas, ça change absolument rien.
Je suis d'accord.
Il y a personne qui pensait
moi autour de la table, je vous disais, faut absolument qu'il sorte Ronaldo, faut qu'il sorte Ronaldo pour le symbole.
Nous on disait qu'il allait jouer la prolongation, voilà. Il serait là pour les tours.
Moi je le disais, je sais pas ce qu'en pense Gary, mais je le disais, pour moi il fallait qu'il le sorte parce que même si t'es éliminé, c'est pas grave, il aura tenté le coup. Au moins juste de remplacer un joueur qui voilà, qui n'a pas les jambes pour jouer forcément 80 ou 120 ou 90.
Wayne Rooney il dit l'inverse, à un moment du changement à la télé, il dit c'est inadmissible de sortir Ronaldo et Bruno Fernandez le meilleur passeur, le meilleur buteur. C'est la famille, t'as raison.
Et moi pour finir, c'est le moment de la Coupe du Monde du Portugal, et moi même si ils sont éliminés contre l'Espagne, au moins il aura fait ça. Ça paraît dérisoire, mais pour moi ça ne l'est absolument pas. Pour le pays, ça ne l'est absolument pas, et il fallait le faire. Et comme par hasard, le Portugal qui va arracher un but sur un but de Gonçalo Ramos libéré. Alors, par la sortie et par les...
Évidemment, gros plan à la 82e quand Cristiano sort du terrain. Il a pas masqué sa déception, elle était immense,
c'est
profonde.
C'est pas le genre de la maison.
Mais il s'est repris quand même. Il a quand même fait la collade à Roberto Martinez. Il n'a pas pleurniché. Il a compris. Il est sorti, donc c'est possible.
Mais c'est ce que je me tuais à dire depuis le début de cette compétition. C'est que c'était pas Cristiano qui faisait. Il a un caractère difficile à gérer, etc. Mais c'est gérable. Aujourd'hui, Roberto Martinez a pris les décisions qu'il fallait prendre. Il a pris la décision qu'il fallait prendre. Et on l'accusait. Je l'accusais justement en avant-match de jamais prendre de décisions fortes. C'est vrai qu'il avait pas mis Bernardo Silva c'était un choix fort déjà depuis le début de la compétition. Là, il sort Bruno Fernandes et la chose qu'on pensait inatteignable, c'est-à-dire qu'il sort Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai que, comme je suis d'accord avec Kevin, il va y avoir un avant et un après dans l'ère Martinez, parce que c'est la première fois qu'il le fait dans ce type de compétition, et en plus Gonçalo Ramos a répondu avec ce but. Donc ça fait que confirmer ce choix-là, et pour la suite, je serais pas étonné de le revoir sortir. Il va certainement débuter le match, ça c'est une certitude, mais sortir peut-être plus tôt, parce que là il fait beaucoup de changements, il a fait changer toute l'équipe, il a déjà changé des gros joueurs à la mi-temps, à la 60e, il prend des décisions importantes avec des joueurs importants dès la mi-temps, 60e. Je pense que ça pourrait arriver avant même.
Quadruple changement à l'heure de jeu quand même.
Ça ressemble pas à grand chose en soi, mais au moins il tente quelque chose, quoi.
Bruno Fernandes sort, Vitinha sort, Cancelo sort.
C'est ça, il fait des retouches après, il fait des retouches qui étaient nécessaires avec l'entrée de Gonçalo et justement de
Walid. C'est les retouches qui ont tout changé vraiment.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, dans tous les débriefs qu'on a fait du Portugal, on n'a jamais dit que Ronaldo devait pas démarrer parce qu'il a quand même une contribution mentale, psychologique sur cette équipe. Mais c'était surtout la gestion du temps de jeu de Cristiano Ronaldo dans une compétition. Et on avait dit contre l'Ouzbékistan, pas normal qu'il ne sorte pas normal contre la Colombie qu'il ne sorte pas non plus. Et là, quand on voit qu'il y a ce choix fort de sortir Cristiano Ronaldo et que derrière, c'est récompensé par le super sub Gonçalo Ramos, je pense que ton groupe sort grandi dans ton management et surtout, c'est récompensé par un choix pertinent. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que Ronaldo qui sort. C'est que, en fait, la première salve de changement de la part de Roberto Martinez, elle est impulsée parce que tu es mené au score. Donc elle est à 1-0. Juste après les changements, t'as ce penalty avec cette grosse erreur du Croate. Sauf qu'à ce moment-là, t'es totalement déséquilibré et un partout, tu te rends compte tout de suite que, attends, mais pendant 30 minutes, ils vont jouer en 4-4-2 comme ça, avec Gonçalo Ramos en 19,5 qui va tourner autour de Ronaldo et avec un milieu de terrain Neves, Bernardo Silva, où à la perte, tous les petits profils croates vont pouvoir se régaler, Susic, Kovacic, et tu sentais qu'à chaque fois qu'ils avaient le ballon, les Croates, ils étaient dans un fauteuil, ils pouvaient faire avancer le jeu. Et c'était criant. Je pense que tout le monde qui a regardé le match à ce moment-là, il se dit, mais attends, comment ils vont faire le Portugal? Et là, à ce moment-là, Diogo Costa sort des énormes parades, il y a un vrai temps fort de la part de la Croatie, et là, au-delà du choix Ronaldo, tu dis que tactiquement, Roberto Martinez doit intervenir. Et là, il intervient en sortant Ronaldo. En sortant Ronaldo et en mettant Gonçalo Ramos en neuf et en faisant rentrer Ruben Neves pour solidifier son milieu de terrain. Et derrière, au-delà du choix tactique, il y a le choix tactique et il y a le choix de sortir Ronaldo. Et à la fin, tu es récompensé avec ce but de Gonçalo Ramos. Donc c'est parfait en fait. C'est ce qu'on demande à cette équipe du Portugal. C'est ce qu'on demande aussi à un sélectionneur du Portugal qui doit pas être pieds et poings liés jusqu'au bout s'il doit faire des choix tactiques. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
On est d'accord, mais
attends,
c'était dans les mots du sélectionneur.
Je te rends la parole dans un instant. On écoute Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal.
Le message, c'était de dire qu'on était tous prêts.
Bon,
le mondial, il commençait aujourd'hui. Jouer avec le cœur, jouer avec fierté, représenter le maillot du Portugal, et c'est ce qu'on a fait. On a montré de la personnalité après avoir encaissé un but. La Croatie, c'est une équipe spéciale. Pour le père de Ricky Carvalho, pour Diogo Jota, on a joué pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur maintenant? C'est la satisfaction, la fierté, commencer à récupérer. Parce que le prochain match, il arrive très tôt.
On va parler de la suite. Hein. Quelle ambition peut nourrir le Portugal? Beaucoup, vous êtes très sceptiques hein, sur la suite. Il y aura l'Espagne, bien sûr, qui est impressionnée.
Le Martinez, il parle un espèce d'espagnol portugais.
Ah bon,
c'est un portugais.
Facile à traduire.
C'est facile.
Ouais.
On dit pas pronto, il a pas dit ça, maman.
Il parle. Si, il fait un portugnol. Mais il y a le portugais d'Ancelotti, il est encore plus pépite.
Matanovic, il y a égalisation.
Au passage, les Croates ont eu 3 buts hors jeu refusés.
Ouais, le Portugal en a eu un hors jeu.
Non, mais non,
Cristiano d'ailleurs.
Mais pour en revenir sur ce match, moi, il y a quand même des joueurs qui m'ont agacé, hein, pour dire la vérité. Il y a quelques noms d'oiseaux qui ont fusé
pendant
le match.
Pas 3 heures du matin, tu peux aller.
Parce que moi, Léao, avant de faire sa passe des magnifiques, il est tellement agaçant, mais c'est le joueur que je ne supporte pas depuis le début de sa carrière. Il a tellement de talent, mais c'est tellement sur courant alternatif, voire c'est clairement pas assez. C'est pareil, c'est un football où il va tricoter pour rien, il va jouer arrêté alors que c'est une fusée quand il est lancé. C'est tellement un gâchis, franchement, moi ça m'insupporte. Par contre, il a le talent de t'envoyer un missile là qui fait quasiment barre transversale rentrante. Il a le talent pour t'envoyer un centre parfait, même si Gonzalo Ramos fait un monstrueux travail derrière. Donc disons bravo à Martinez de l'avoir maintenu. Et après, il y a pour moi un Nuno Mendes qui m'a déçu parce que je sais que c'était cher à coach Courbis. J'ai vu aussi un échange cet après-midi entre Roy Keane et Neville sur la télévision anglaise qui parlait du fait qu'aujourd'hui les latéraux ne sont plus là pour empêcher les centres. Mais pour moi, le but croate, mais c'est pas possible de laisser centrer comme
Nuno
ça.
Mendes, en fait, il est juste à 5 mètres.
Il est à 5 mètres. Après, c'est Léao qui vient pas aider non plus.
C'est une association de malfaiteurs.
Cancelo, hein,
c'est
Léao.
Et Cancelo, c'est la même chose derrière, hein, de l'autre côté.
Donc c'est bien beau d'avoir des contre-attaquants, mais il y a un moment, faut défendre. Et donc, le Portugal a mal défendu sur ce but, a mal défendu sur 2-3 transitions. Par contre, bravo par contre à Costa, parce qu'il nous a fait un match aujourd'hui.
Quel gardien.
J'ai aimé ce gardien.